Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femme, Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis en direct de 17h à 18h30 pour ce qui est de remue-ménage. Et vous retrouverez à 18h30 les informels de Radio Pleine Lune. Aujourd'hui, je vous propose avec un petit peu de retard, mais l'actualité nous a obligés en quelque sorte à ce décalage dans le temps. Je vous propose de vous raconter ce que Laurence Brun et moi-même avons vu, beaucoup vu, entendu et discuté pour vous au Festival de Femmes Internationales de Créteil, qui a eu sa 15e édition cette année à Créteil. Et Laurence y a passé un bon bout de temps, j'y ai passé un tout petit bout, Viviane, dont vous entendrez parler du festival par un autre biais dont je vous parlerai tout à l'heure. Il y est resté quelques jours de plus, une année un peu particulière, mais avec des très belles choses à vous raconter, un très beau film primé. Alors tout de suite, dans l'atmosphère de l'ouverture du festival, où Laurence Brun était pour nous.
15e Festival de films de femmes, Créteil 1993. J'aime bien cette ambiance.
De films de femmes de Créteil et du Val-de-Marne. Je salue tout particulièrement ce soir la présence parmi nous de nos invités venus du monde entier, d'Inde et de Chine, des États-Unis et du Canada, d'Europe et d'Afrique, du Japon et de bien d'autres pays encore, au total à peu près 25 pays différents. Je salue chaleureusement les membres de notre jury 93, Annie Girardot, notre présidente.
Et voilà, alors c'est ainsi que commence chaque année le Festival de la musique. Et puis Jackie Buet dans son, effectivement, assez, depuis quelques années en tout cas, le même costume, comme vous entendiez une spectatrice se glisser dans l'onde du micro de Laurence. Même costume pour Jackie Buet, mais surtout même énergie pour Jackie Buet pour organiser pour la 15e fois. Les premières fois, elle n'était pas toute seule, mais ça fait en tout cas depuis 3 ans qu'elle mène la barque toute seule de ce festival. Toute seule, c'est beaucoup dire, parce qu'il y a une équipe incroyable qui l'aide à organiser ce festival. Mais il faut savoir quand même que c'est elle qui visionne la centaine de films et plus que finalement elle choisira définitivement pour être montrée au festival. Il y a bien sûr, selon les diverses sections, c'est-à-dire suivant que l'on obtient des films et on verra des films sur l'Extrême-Orient, par exemple, sur l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, sur l'Afrique, eh bien, il y a chaque fois un relais dans ces régions et des contacts qui permettent ensuite à Jackie de retrouver ces différents films et de choisir ceux qu'elle décidera de montrer pour ce festival. Alors, cette année, quelle était un petit peu l'optique du festival? Il faut peut-être rappeler que jusque-là, le festival a atteint plus de 30 000 spectateurs à travers les multiples activités et secteurs qu'elle a proposé, que le festival a proposé. Et cette année, eh bien, c'est un petit peu en en-tête du programme que nous avons reçu. Le festival sollicite notre vigilance pour un futur qui s'annonce incertain. Alors, bien évidemment, cette petite phrase a tout de suite attiré notre attention à Laurence et à moi-même. Et bien sûr, nous avons plus tard, vous l'entendrez, demandé à Jackie Buet pourquoi elle parle d'un futur qui s'annonce incertain. Alors bien sûr, quant à elle, elle n'ignore pas les menaces, mais il convient cependant de fêter dignement la longévité du festival. 15 ans, ça n'est pas rien, mais vous verrez que pour Jackie Buet, c'est quasiment l'adolescence d'un festival. Alors, qu'en est-il de ce 15e anniversaire? C'est l'occasion, bien sûr, de fêter 15 ans de ce qui fut l'essence du festival de Créteil, c'est-à-dire la recherche et la découverte de réalisatrices, auteurs de cinéma à travers le monde entier. Et au travers des victoires, eh bien, il ne faut pas oublier de mesurer très précisément l'importante proportion des jeunes femmes qui sont entrées dans les écoles de cinéma ces 20 dernières années et qui en sont sorties brillamment. Alors bien sûr, on peut citer quelques noms, comme par exemple le nom de Jane Campion, qui est une réalisatrice néo-zélandaise, ou Chantal Ackerman, qui est une réalisatrice belge, qui ont, elles, réussi brillamment après ce chemin-là. À travers leurs fictions, leurs documentaires, leurs films expérimentaux, leurs reportages, eh bien, on trouve des femmes qui ont pris une place professionnelle, mais aussi artistique, unique et incontournable. C'est ainsi que choisit de le dire Jackie Buet dans son introduction. Alors, cette année, quelles ont été les diverses les organisatrices du festival veulent dire qu'il y a différents aspects, différentes lignes, qui ont permis la sélection des films. Alors, une première partie qui a été choisie par Karine Saporta. Karine Saporta est chorégraphe, photographe, cinéaste, et elle a reçu cette année une carte blanche pour faire une sorte de parcours inventaire depuis les débuts du cinéma, d'œuvre en œuvre, du côté des réalisatrices qui ont été révolutionnaires. Quant à elle, donc Karine Saporta, elle a fait son choix pour parler d'un cinéma un peu moins narratif et de favoriser le regard. Alors par exemple, on verra des films réalisés par Pinar Bausch, Meredith Monk, Yvonne Regnier, de ces magiciennes de l'image vivante, et encore une fois, des films qui souligneront le rôle déterminant de Marguerite Duras, d'Agnès Varda ou Chantal Ackerman. Dans une autre section que nous retrouverons chaque année, eh bien, c'est l'autoportrait d'une actrice. Cette année, c'était Monica Vitti. C'était l'occasion de revoir, bien sûr, L'Aventura, de rencontrer Monica Vitti, rencontre un petit peu décevante, auquel j'ai pu participer, que j'ai pu suivre, puisque le seul week-end où j'ai pu aller, qui était le week-end de clôture du festival, eh bien, le samedi soir, était le jour où Monica Vitti était invitée. Je dois avouer qu'elle n'a pas grand-chose à dire comme femme, finalement, même si elle a effectivement participé à une partie de l'histoire du cinéma qui est une grande aventure. Celle des années 50-60, mais bon, même en tant que réalisatrice, visiblement, elle n'a pas grand-chose à dire, parce qu'elle n'a pas fait non plus le lien entre son rôle entre comédienne et aujourd'hui, en tant que réalisatrice, en tout cas, d'un premier film. Une autre section du festival de cette année, c'est chaque année des femmes étrangères au continent qui sont invitées. C'est parfois, le cinéma est à la fois une mémoire des tentatives d'émancipation de la femme, est aussi souvent le témoin irréfutable, malheureusement, de son aliénation millénaire, et parfois, par effet un petit peu pervers, la dernière tentative pour l'immobiliser. Donc ce cinéma est une dernière tentative pour l'immobiliser, j'y arriverai, dans ses modèles passés. L'enjeu donc de l'image est fondamental, c'est le lieu d'une mémoire, d'une valorisation, d'une rupture et de l'intégration tout à la fois. Et tout ça, les organisatrices du festival ont décidé de nous le montrer, de le faire valoir, en invitant et en créant la section des Chinoises, Ombre et Lumière. Ce n'est pas des films réalisés par des femmes, mais c'est plutôt un parcours de 13 films durant 60 ans de cinéma chinois à travers les personnages féminins. Alors, il y a bien sûr des films qui ont été réalisés en majorité par des hommes, puisque à cette époque-là, le cinéma chinois n'était pas beaucoup réalisé par des femmes. Mais on y retrouve des grandes actrices, souvent dans des rôles héroïques, comme Li Lili et Ruoyan Lingyu. Je ne sais pas si vous les connaissiez. Nous avons pu les découvrir sur l'écran avec leurs personnages émouvants et inoubliables. Troisième section du festival qui a déjà commencé l'an dernier, c'est le Tour d'Europe. Tour d'Europe qui se poursuit cette année avec un même principe, c'est-à-dire qu'une réalisatrice confirmée est choisie par les organisatrices du festival qui invite à son tour une jeune réalisatrice de son pays. Alors par exemple, il y a eu la réalisatrice Pilar Miró, grande dame du cinéma espagnol. Il y a eu par exemple Maureen Blackwood qui est... anglaise, et tout ça dans le but de consolider un réseau professionnel qui tisse des liens et qui permet, lors du festival, de renforcer un petit peu la solidarité entre les réalisatrices et les jeunes réalisatrices face à la crise qui sévit un peu partout en Europe et qui touche beaucoup la culture. Et le cinéma n'y échappe pas, bien évidemment. Il y a eu une cinquième partie, une cinquième section, c'est la carte blanche et la rencontre donnée aux réalisatrices canadiennes. C'est un long rêve depuis longtemps du Festival de Créteil parce que c'est une très forte inspiration que sont les femmes canadiennes. Mais on en reparlera tout à l'heure parce que Laurence, qui était pour nous pendant tous ces 10 jours de festival, a accordé une part importante à sa rencontre avec une réalisatrice canadienne et une comédienne canadienne. Nous en reparlerons tout à l'heure. Il y a eu aussi... grâce à l'association Femmes et Changement, des tables rondes sur l'environnement et des films sur environnement et développement. Alors, pourquoi ce choix? Parce que le cinéma des femmes que défend le Festival de Créteil est un outil de mémoire et de perception. Mais le rôle du festival est aussi de favoriser la naissance d'un cinéma d'auteur qui est seul garant contre toutes les formes de propagande. Et donc, pour la première fois, le festival a proposé un programme thématique, en l'occurrence majoritairement en vidéo, qui a été réuni, encore une fois, grâce à l'association Femmes et Changement. Et cette section s'est appelée Rio, Créteil, Pékin, a réuni 25 films sur des sujets d'urgence touchant à l'environnement et au développement, avec l'organisation de 2 tables rondes, beaucoup d'intervenants du monde entier. Et pourquoi Rio, Créteil, Pékin? Eh bien, Rio, c'était la planète des femmes lors de la dernière réunion mondiale sur l'environnement en juin 92 dernier. Donc, planète des femmes, l'alternative à la conférence officielle. Créteil, eh bien, c'est la rencontre qui nous est proposée par le festival. Et Pékin, c'est en 94 la nouvelle rencontre des femmes organisée par l'ONU et où il y aura bien évidemment aussi une partie alternative, tout comme il y avait eu à Nairobi en 88. Et voilà, c'est une année décisive pour le festival, visiblement, face à des changements structurels importants qui s'annoncent. Quels sont ces changements structurels? Peut-on poser des hypothèses, comme par exemple, est-ce que les femmes de Créteil craignent de grands bouleversements à cause des changements du changement récent du gouvernement français? Mais en tout cas, il semble certain que le festival, plus que jamais, s'appuie sur son public, qui est son fort soutien, sur des partenaires qui semblent pas trop se défiler. Nous en reparlerons avec Jackie Buet à la fin de cette émission. Et bien sûr, comme toujours, eh bien, on retrouve la fête tout le temps à Créteil, vous l'avez entendu tout à l'heure. Et c'est des moments importants à marquer d'une pierre rouge. Et surtout, cette année, c'est encore une fois l'occasion, si le public a été si nombreux, de marquer le fait qu'on veut encore des rendez-vous futurs.
Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself,
try.
Well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else.
Try.
Hey, well, I don't care how long it's gonna take me.
Janis Joplin, try a little bit harder, essaye un petit peu plus fort. Alors, le cinéma, le festival du cinéma de femmes de Créteil, je vous l'ai dit tout à l'heure, a choisi pour son 15e anniversaire de s'associer au vaste panorama des cinémas du Canada. Et il y avait en même temps à Paris une rencontre organisée par Téléfilm Canada, l'Office national du film et le Centre Georges Pompidou. Et donc le festival a décidé de faire aussi un contrepoint à sa façon. Et alors il a proposé de, nous avons pu voir 15 films qui ont tenté, et Paris difficile s'il en est, de marquer l'apport particulier des réalisatrices canadienne, l'originalité de leur démarche et surtout de valoriser les dimensions artistiques et sociologiques propres au cinéma canadien en choisissant certaines personnalités. Alors, Jackie Buey a un coup de cœur, elle l'a exprimé, c'est pour Mireille Dansereau, dont nous parlerons tout à l'heure. Choix subjectif, bien sûr, de Jackie Buey, même si l'idée qui préside à ce programme est plutôt de poser les principaux jalons de l'histoire du cinéma des femmes dans une profession où elles ont beaucoup apporté. Après les thèmes d'urgence sur le viol, la pornographie, l'avortement, les réalisatrices canadiennes ont développé un regard particulièrement sensible sur les questions d'identité individuelle ou collective, les formes de marginalité, homosexualité, femmes détenues, etc. Sur le métissage aussi, la construction de l'histoire avec un grand H et de sa mémoire. Elles ont surtout manifesté une préoccupation constante dans l'élaboration d'une esthétique visuelle. Et s'il fallait vous citer quelques noms de réalisatrices québécoises, eh bien, je peux vous citer le nom de Patricia Rosema, de Patricia Gruben, de Kay Armatage, Mireille Dansereau, dont nous allons reparler, Kim Derco, Joyce Villain, Jenny Scull, Holly Dale, Norma Bailey et Léa Poul, canadienne mais aussi suisse, vous le savez, à moitié ou du moins d'origine. Et elles seront donc à l'honneur, elles ont été, pardon, à l'honneur dans ce festival. J'avais envie de vous lire un petit extrait d'un article qui a pour titre « Le long hiver des réalisatrices québécoises » et qui s'étend ce long hiver de 1970 à 1992, texte qui a été écrit par une réalisatrice canadienne, Louise Carrière. Elle dit, à propos de ce long hiver des réalisatrices québécoises, « Sur les 800 longs-métrages réalisés au Québec de 1960 à aujourd'hui, on compte à peine 50 films de femmes, dont une quarantaine pour les seules années récentes, c'est-à-dire 1980-1992, documentaires et fiction compris. Léa Poul, à elle seule, réalise 6 longs-métrages de fiction et participe à un 7e. » On peut les citer en du moins quelques-uns, La femme de l'hôtel, Anne Trister, À corps perdu, La demoiselle sauvage. Et tous ces films constituent l'exceptionnelle continuité d'un cinéma qui autrement se présentait socialement comme plutôt décousu et discontinu. Au cours de la même période, les autres cinéastes suivent bien loin derrière avec 2 ou 3 films de fiction. Micheline Langteau, par exemple, Johan Préjean, Louise Carré, Brigitte Soriol. Et après 10 ans d'absence, eh bien Mireille Dansereau nous donne le très remarquable Le Sourd dans la ville, tandis que Cynthia Scott aborde en Lyon la fiction avec le surprenant The Company of Strangers, ce film que nous avions vu l'année passée, La Compagnie des étrangères, qui racontait cette histoire de femmes d'un certain âge qui partaient en balade, qui tombaient en panne et au cours de cette panne venaient s'établir dans une petite maison. Et là, toute leur vie se racontait au fil de ce temps d'attente avant que leur voiture soit réparée. D'autres réalisatrices qui ont été occasionnellement actrices sont devenues réalisatrices. C'est le cas, par exemple, pour une réalisatrice comme Marquise Lepage. Et puis Anne-Claire Poirier, que l'on connaissait pour un film absolument impressionnant et magnifique sur le viol. Elle se repose en quelque sorte de ses films cris avec un film qui a pour titre La quarantaine et Salut Victor. Comme dans un labyrinthe, voilà une cinématographie où on chercherait en vain le film conducteur. Voilà comment analyse ce long hiver des réalisatrices québécoises. Mais Brenda Longfellow, qui continue à écrire un article sur le cinéma québécois, qui a pour titre « Stratégie féministe dans les films canadiens », constate que son sujet n'est pas le cinéma des femmes, un terme qui sous-entend que « femme » est un trait distinctif et qui laisse à lui seul des traces esthétiques indubitables. Son point de départ est tout autre dans sa recherche. Les divers lieux et contextes institutionnels, ainsi que les variables inextricablement liées les unes aux autres, que sont la classe sociale, la race, l'ethnie et la préférence, sexuelles produisent et déterminent le cinéma des femmes. Et elle propose donc un historique qui examinera la spécificité de certaines stratégies féministes, comme les ont révélé les cinémas documentaires avant-gardistes et narratifs. Il y a bien sûr aussi le cinéma de documentaire, parce que les femmes canadiennes et femmes québécoises ont beaucoup réalisé de documentaires. L'Office national du film, fondé en 1974 par une ancienne bruiteuse, Kathleen Shannon, a fondé aussi un studio qui devait être un lieu qui assurait la formation de femmes cinéastes et faciliterait la production de films tournés d'un point de vue féministe. Et bien que certains courts-métrages indépendants aient été produits avant la fondation du studio, qu'on a appelé Studio D, celui-ci est devenu, grâce à sa douzaine d'employés permanents et à son financement régulier, le centre institutionnel le plus important du documentaire féministe. Cependant, l'histoire du cinéma documentaire féministe ne peut être dressée sans qu'on se réfère à l'histoire du mouvement des femmes au Québec et au Canada, qui a engendré le besoin d'outils pour étudier des questions telles que l'avortement, le viol, les garderies et l'infériorité sociale et économique dont sont victimes les femmes, thèmes que l'on retrouve largement dans les documentaires réalisés par les femmes québécoises. Plus accessible et moins coûteux que le cinéma de fiction, le cinéma documentaire a été et souvent continue d'être la porte d'entrée des femmes au cinéma. Mais bien sûr, je vous l'ai cité tout à l'heure, de nombreux longs métrages de fiction ont été quand même réalisés. On a trouvé des articles rédigés il y a 10 ans déjà sur les longs métrages féministes du Québec. Et on y soulignait, toute proportion gardée, le peu de films de ce genre qui étaient tournés au Canada anglais, beaucoup plus au Canada français. Et il était suggéré dans certains articles que ce déséquilibre était surtout dû aux différences entre les organismes provinciaux de financement et au fait que la langue et la production culturelle étaient au centre des préoccupations du mouvement féministe au Québec, alors qu'ailleurs, les questions d'ordre politique prenaient le pas. Le plus souvent, un premier long métrage entraîne la ruine financière et en plus des frustrations liées à une exploitation limitée et à des critiques hostiles. Au Canada, cette situation fait qu'il est très difficile, voire impossible, d'en produire un deuxième. D'où par exemple l'exemple de Mireille Dansereau qui a produit son premier film L'Arrache-cœur en 1979 et il faudra attendre 10 ans pour qu'elle produise son deuxième film. Alors, comment a-t-on passé pour certaines de ces réalisatrices d'un stade d'avant-garde expérimental à quelque chose de plus populaire, si l'on peut dire? Eh bien, que des documentaires féministes au Canada aient été en grande partie une réaction ou une confirmation de la tradition de certaines femmes. Le cinéma expérimental féministe, pour sa part, et dès le début, s'est distingué de façon importante de la tradition normative masculine. L'une des différences évidentes entre les priorités des avant-gardes, si on peut les appeler comme ça, masculines et féminines, se trouve par exemple dans l'œuvre de Joyce Villand. Elle a d'abord été artiste plasticienne, puis partenaire de Michael Snow, et comme lui, elle s'est tournée vers le cinéma pendant qu'ils habitaient New York dans les années 60, pleine période du structuralisme. Et l'on voit que dans l'œuvre de Snow, il a évolué beaucoup plus vers des préoccupations modernistes, et celle de Joyce Villand s'est contentée d'exploration et jouée d'images du corps et du lieu domestique. Voilà les grandes différences entre l'avant-garde expérimentale homme et femme. Mais outre le documentaire, le cinéma expérimental féministe au Canada s'est également préoccupé de la déconstruction du récit et du questionnement des conventions du savoir occidental. Cette thématique se trouve au cœur des intérêts d'une cinéaste comme Patricia Gruben, par exemple, qui est cinéaste et professeure à Vancouver. Alors, un long article qui tente de vous donner une image de ce qu'est aujourd'hui le cinéma des femmes québécoises. Mais je crois que le plus simple, c'est de vous parler du coup de cœur de Jackie Buet, qui est la réalisatrice Mireille Dansereau. Laurence a vu pour nous un film dont je viens de vous parler, qui est L'Arrache-Cœur, le film réalisé par Mireille Dansereau en 1979, son premier film. Et comme disait Mireille Dansereau, comme le temps passe. Et d'ailleurs, c'est bien un peu la sensation qu'a eue Laurence. Elle nous le raconte en me racontant le film.
C'est donc l'histoire d'un couple. Lui est immigré au Canada. Et il est, je pense, réalisateur. Et elle, on ne sait pas ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle travaille à l'extérieur toute la journée. Ils ont un petit enfant. Et lui reste à la maison pour garder le petit enfant, pendant qu'elle travaille à l'extérieur. Alors évidemment, problème de qui reste, qui travaille, qui gagne la vie du couple, qui ne la gagne pas. Impatience du père, qui est enfermé toute la journée avec son petit, qui éclate, qui se plaint. Elle qui rentre fatiguée, qui a envie de trouver un intérieur serein, et puis qui au contraire voit l'air contrarié de son jeune mari, frustré. Le petit gosse qui pique ses crises, enfin vraiment... un sujet, je pense, éternel, qui est filmé quand même avec certaines longueurs et une certaine complaisance, je trouve. Je pense qu'on le filmerait plus comme ça aujourd'hui, bien que le problème reste toujours le même. Alors là, la jeune femme est très perturbée parce qu'elle a une mère manifestement très très présente, mais qui a eu un cancer. Alors elle est obsédée par ce cancer de sa mère et elle est sûre qu'elle va la voir. Alors elle se tâte le sein, elle ne dort pas, elle est très très inquiète. On la voit aller voir son analyste, elle y pense tout le temps, elle en parle à son mari, enfin ça devient l'obsession. Alors c'est quand même assez... Et puis, à part cette histoire de cancer, elle se cherche, elle en veut à sa mère de ne pas l'avoir vraiment aimée, elle ressasse ça, elle retourne ça, elle prend énormément de place dans le film. Alors évidemment, le mari, il en a un peu marre, quoi. Oui, alors, donc ces problèmes de l'héroïne du film sont assez envahissants. Tous ces problèmes sont imbriqués, c'est-à-dire les problèmes avec sa mère, qu'elle doit résoudre, les problèmes avec son mari, qu'elle doit aussi résoudre, les problèmes du mari avec elle. Donc il y a souvent des discussions et la tension monte jusqu'à la fin du film où il y a une scène où il s'injurie, où il la jette par terre, où la tension éclate et il part, il claque la porte et il s'en va. Elle se retrouve seule et se retrouvant seule, elle téléphone à sa mère. La mère est absente parce que la mère travaille aussi et finalement elle se retrouve seule, mais la mère arrive et elles ont une discussion assez intense où enfin elle dénoue un peu un nœud, l'héroïne sort plein de choses à sa mère, elle règle un peu leur compte. Et la journée passe. En même temps, on voit les séquences du mari qui, lui, après avoir claqué la porte, marche dans Montréal, dans tous les sens, dans la rue, etc. On sent qu'il peut passer plein de choses dans sa tête. Et puis ensuite, le soir tombe, elle se retrouve seule chez elle. Et on la voit taper à la machine dans sa cuisine. Donc manifestement, elle est en train d'écrire plein de choses. Ça doit bouillonner dans sa tête. Et puis la porte s'ouvre, le mari rentre. Il doit être 11h ou minuit. Et là, ils se retrouvent tous les deux dans la cuisine. Et il parle calmement et lui dit, tu sais, j'ai décidé, j'ai loué un studio, un atelier où je vais travailler. Donc, on va trouver quelqu'un pour garder notre petit, alors que lui, avant, s'y opposait. Comme ça, toi, tu pourras aller travailler, moi, je travaillerai, le petit sera gardé par quelqu'un d'autre. Et alors, elle dit, tout d'un coup, le téléphone sonne. Alors, elle dit, je n'ai pas envie de répondre au téléphone, je n'ai pas envie qu'une tierce personne. Et puis, elle lui dit, moi non plus. Alors, on se sent à sourire. Ah oui, puis elle lui dit, oh, j'aimerais bien que tu lises ce que je viens d'écrire. Donc, il y a tout d'un coup un échange entre les deux et il y a un espoir.